Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous allons continuer cette semaine ce que nous avions commencé la semaine dernière avec cet hommage au poète disparu Jean Rousselot. Mais auparavant, je voudrais vous signaler un livre et puis une œuvre aussi d'un poète qui s'appelle Philippe Pichon, qui est un poète de notre région d'Occitanie, puisqu'il vit à Montpellier. Nous reparlerons ici de Philippe Pichon. Je vais simplement aujourd'hui présenter très brièvement un de ses derniers livres à Philippe Pichon. Ce dernier livre qui a pour titre « Cieux défunts, ciel défait, fragments et versets » avec une présentation de J'aime Sacré, un autre poète qui habite donc Montpellier et qui est d'ailleurs J'aime Sacré et membre de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Ce livre de Philippe Pichon, Cieux défunts, ciel défait, est publié aux éditions Coda. Alors, qui est Philippe Pichon? C'est un commandant honoraire de la police nationale. Et nous verrons d'ailleurs que tout à l'heure, en parlant de Jean Rousselot, Jean Rousselot était lui-même commissaire de police. J'en parlerai dans quelques instants. Commandant honoraire de la police nationale, donc Philippe Pichon, il est révélé au grand public avec son journal d'un flic qui a paru chez Flammarion en 2007. Et il a mené conjointement, donc avec sa carrière, une œuvre de lecteur. Il a fait un livre sur Saint-Jean-Perse, la maison de la poésie, collection Plein Champ, en 2004, et de poète, une œuvre de poète, dont nous vous parlerons au fur et à mesure des émissions futures. Aujourd'hui, il est l'auteur dont de nombreux essais également, dont Fichier Stick, c'est une mémoire policière sale. C'est Jean-Claude Kasevich, en 2010, qu'il a publié. Alors, ce livre a suscité une vive polémique dans la presse nationale. Voilà. Nous aurons bientôt le plaisir d'entendre ici même Philippe Pichon, une mission qui lui sera consacrée. Mais d'ores et déjà, je voulais vous présenter ce livre, très très beau livre, « Cieux défunts, ciel défait, fragments et averses », avec cette présentation de « J'aime sacré » aux éditions Doureau, collection La Bleu Turquin. C'est une collection qui est dirigée par Jacques Coda. Je vais simplement vous lire un extrait. Alors, c'est un livre, je ne sais pas. Oui, il coûte 18 euros. Je vais vous lire un extrait que je viens de perdre, mais je vais le retrouver. Ce souffle qui nous traverse, jusque dans les ténèbres, jusque dans les songes, nous en connaissons maintenant la source. Nous savons où il nous conduit. Le cœur révélé est souvent plus juste que la raison ardente. Tandis que l'aube déchire le voile du temple de la nuit, attardé en ses ténèbres, voilà que l'absent m'apparaît enfin, à moi, qui me tient à l'écart. Il offre sa main fraternelle. Ai-je mérité son attention, ou sait-il que je l'attends depuis presque toujours? Il sait, et je sais, que ses yeux ne peuvent mentir, que j'existe depuis longtemps dans son désir. Nous venons l'un et l'autre de si loin, lourds de nos tâches et de nos peines, et de ce passé décomposé qui s'étend à l'infini comme une plaine, comme une plainte. Nul obstacle ne décourage ceux qui tentent de se rejoindre. Déjà nos yeux cherchent, déjà se mêlent nos paroles et un vocable s'instaure qui dit ce qu'ensemble nous sommes, lui, le désir de mon attente, moi, l'attente de son désir. Ne doute pas, mon ami, mon frère, l'amour est autre qu'un songe vague, que la promesse du jeune matin, que l'eau du puits fraîche à notre soif. C'est la relation sensible au cœur qui se révèle, c'est la voie qui conduit à l'indicible. Que je naisse de ton désir, comme tu n'es de mon attente, et que je ne puisse plus me mouvoir que dans le rayon de ton regard, où je me veux à jamais captif. Voilà, c'est un poème évidemment adressé à Dieu. Nous reparlerons de Philippe Pichon, mais je voulais simplement aujourd'hui vous indiquer cette publication et puis vous indiquer aussi que si vous avez, vous voulez avoir les œuvres de Philippe Pichon, vous allez les voir donc sur les moteurs de recherche. Voilà, nous reparlerons de Philippe Pichon. Retour donc à ce témoignage de Jean Rousselot. Alors Jean Rousselot, c'est un hommage qui lui avait été, nous l'avons fait venir à la Cave Poésie en 1981. Et donc il va lire là ses poèmes, parler de lui, parler de son œuvre. Jean Rousselot, je rappelle très brièvement qu'il est né le 27 octobre 1913 à Poitiers, qu'il est décédé le 25 mai 2004 dans les Yvelines, et puisqu'il habitait l'étang Laville. Alors, dans la dernière émission, je disais qu'il avait été rédacteur de la mairie de Poitiers, et c'est lui qui m'a donné l'envie, effectivement, de faire cette carrière à la fois dans l'administration territoriale, mais également la justice, puisque Jean Rousselot a été secrétaire du commissaire de police, puis a été ensuite, il a passé le concours, il a été commissaire de police à Orléans en 1936. Il a été président de la société d'agents de lettres lorsqu'il a abandonné sa carrière administrative pour se consacré à son œuvre éditoriale. Nous écoutons Jean Rousselot.
Ville faisait pire que je chiffonne. Entre-temps, j'ai fait le café, lavé les plaies, morigéné les chiens, erri avec le merle, repris du service, quoi. Il y en a trop, hein. Je les prends très court maintenant, vous avez remarqué, ça va plus vite, hein. Je n'ai jamais rencontré un dieu sans hausser les épaules, une femme sans la vouloir, un enfant sans lui sourire, un chien sans lui parler. Entre nous, ça me fait une belle jambe. Là, j'ai appelé ça tout en un, j'aurais dû dire toutes en une. Je me suis trompé. Pour ne pas les confondre, pour ne pas les perdre, pour ne pas m'oublier moi-même, au fond de leurs regards, je leur donnais des noms à moi. Ma grande biche bûcheuse, ma noctéglise, ma hubissante, ma sévère au matin. Il y avait aussi la douce à dire, la servante des neiges, l'exclamoussée, l'ingouvernable obscure, toujours des noms à moi, et la maternelle, bien sûr, avec ses drapés bleus, ses rudes mains. Mais celle-là qui crachait rouge par ma bouche n'avait pas à redouter que je l'oublie, que je la prenne pour une autre, ou que je meure sans l'attendre. Alors après la forêt m'a beaucoup excité, je me suis fixé dans une forêt, j'y vis maintenant, j'ai les arbres sans arrêt autour de moi, ça m'a beaucoup aidé à vivre d'ailleurs. Alors j'ai appelé un poème Route du silence pour la bonne raison qu'il y a dans ma forêt une route du silence. Il y a l'étoile du Rossignol, il y a la route des Amadriades, la route du Ourvari. Ça devait être un conservateur des eaux et forêts, aussi poète que La Fontaine, qui avait baptisé toute cette forêt. La route du silence, c'est invraisemblable, enfin, mais ça existe. Forêt de Marly, route du silence, ils disent que c'est vrai. Un peu plus loin, l'étoile de Céphale. Procris, as-tu souffert? Je n'en peux même. Ton ventre bleu, ils en feront des meubles. Le javelot verdois sous tes beaux bras aveugles qui s'en iront au feu. Hélas, le vent toujours retombe, si tôt qu'il s'est levé sur ces mers rougoyeuses, ces vitres de gala qui regardent ailleurs dès que je fais un pas. Pas de grandes nouvelles. Les faisans qui plastronnent avant moi leur essu. Rien n'arrive quand je suis là. Alors là, je m'adresse encore un petit coup à la forêt. Je ne peux me passer de toi, ma sans yeux, ma sans oreille. Ce n'est pas que ça soit gai, la boue noire, la dépenaille, les peaux cassées, les hêtres marqués pour la chambre à gaz. Ce n'est pas que ça soit aimant, la phalloïde qui pue, le pouls qui pique, les Jésus noirs qui jutent sous la botte. Ce n'est pas que ça soit donnant, l'oursin, le marteau, la tenaille, la pourriture qui écrit en braille. Ce n'est pas que ça soit beau, les costauds à écrouelles en corsage de dentelle. Ce n'est pas que ça soit plus ici, plus toujours, que la femme et que l'idée, c'est lointain, qu'il faut refaire à chaque pas ces transparences de bonne guerre, ces effrois qui s'enfuient dans la race à côté. Mais tu es là sans bouche, là sans entrailles. Mais tu ne me vois ni ne m'entends vieillir, me traquer, m'absoudre, jouir amèrement de mâchonner ma poudre. Évidemment, les arbres, là, sont pris comme des copains, ils servent de symboles, etc., etc. Je n'ai pas besoin de préciser. Bon, on a déjà dit pas mal, quand même. Bon. Un poème à mon père, qui était forgeron. À 50 ans, que sais-je faire ? Mon père forgeait. Il n'avait pas le temps de monter les chevaux qu'il ferrait, ni les pimpesouets qui lui riaient. Forgeait. On voit partout sa main. Charrue, tonnelle, roue, enseigne. Au cimetière même. La mienne se dissout dans les mots qu'il amène, épais comme l'odeur de la corne brûlée. Il n'en restera rien, rien de moi, rien du creux que j'ai fait dans des plages, des femmes, des idées, où je les sens en vie, comme au parloir va l'orphelin. Il ne serait pas fier de moi, mon père, lui qui tirait le soleil du lit, le saignait, le tordait tout le jour, en chantant plus haut que ses plaintes, pour en faire mille choses d'homme, dont s'étonnaient les choses de Dieu, qui les écoutait le soir pensivement, grésillés dans l'eau froide. parler du surréalisme aujourd'hui, pourquoi pas, on a bien le droit. Mais replaçons-nous dans l'histoire littéraire, au moment où le surréalisme apparaît, où il s'étale, si je puis dire, et où il finit par s'en aller tout au moins en tant qu'école. Je ne parle pas de la définition du surréalisme, c'est tout autre chose. Mais enfin, il y a tout de même eu un moment très fort dans le surréalisme, avec le premier manifeste, enfin, si votre mémoire c'est de 24, et puis dès 1930, mon Dieu, on est déjà moins manifeste parce qu'on s'est plus ou moins séparés. On s'est séparés pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, pour un tas de raisons. C'est normal, hein, les gens vieillissent, hein, quels qu'ils soient, et puis ils ont des options différentes. On sait très bien que le surréalisme, finalement, a échoué sur ce que l'on est, selon cette magnifique formule, la barque de l'amour s'est échouée sur les cœurs courantes. C'est une phrase célèbre. Et je crois qu'il en a été pour eux comme pour les autres. Les événements allaient vite. Il y a eu un certain congrès politique à Moscou, le congrès de Kharkov, si j'ai une bonne mémoire, où il y a déjà eu certaines divisions. Au moment de la guerre d'Espagne, il y en a eu d'autres. Au moment de la guerre de 1939, il y en a eu d'autres. Etc. Enfin, on a même assisté à des choses absolument à hurluberlu. Moi, je me souviens un jour avoir éclaté de rire, mais littéralement, ça, c'est beaucoup plus tard. Alors là, au moment de l'affaire de Citoyens du Monde, là, qui s'appelait comment Gary Davis. À ce moment-là, André Breton publie un livre qu'il appelle La lampe dans l'horloge. Il fait un éloge de Gary Davis et son article commence comme ça. Le bon sens le plus élémentaire veut que. Et tiens, c'est tout à fait marrant, de la part d'André Breton, le plus élémentaire bon sens veut que. Bon, enfin, ça n'est qu'une anecdote. Hein. Alors, il faut bien replacer les choses dans leur temps et dans leur contexte géographique également. Aujourd'hui, et je m'en réjouis, à Toulouse, je l'ai lu aujourd'hui, dans ma ville natale à Poitiers, sur les deux la même chose, des livres de poésie, on en voit, on en trouve, ça existe, ça se répand. Même s'ils ne s'en achètent pas beaucoup, tout de même, les gens savent ce que c'est. Hein. Dites-vous que moi, quand j'avais 16 ou 17 ans, dans la ville où j'étais, personne ne savait qui était Rimbaud. Ça ne va pas. Maintenant, Rimbaud est un livre de poche. Mais personne ne savait absolument rien. Dans une ville absolument fermée sur elle-même, il fallait 7 heures de train pour aller à Paris, c'est des trucs de personne n'y allait jamais, toute une aventure. Hein. Et on ne savait rien, absolument rien. Les surréalistes, allez voir, qu'est-ce que pouvait bien être que cette bête-là, on n'avait jamais entendu parler. Alors, pour un garçon de 16 ou 17 ans comme j'étais, découvrir en même temps le surréalisme, Rimbaud, l'autre est amant, etc., etc., mais c'est au fou, c'est tout de tricks derrière la tête, hein, vous n'en levez pas, pratiquement. Alors, ou vous continuez ou vous ne continuez pas, ou vous retournez à un ronronnement que vous avez appris à l'école, etc., ou vous voulez vous intégrer à votre temps, vous vous rendez compte qu'il se passe des choses et vous voulez les connaître. J'ai été de cela. Eh bien, le fait est que j'ai reçu le surréalisme en plein plexus, il n'y a pas de doute. Alors, j'ai écrit, d'ailleurs moi-même, des poèmes en écriture automatique. Je peux dire que j'y ai pris une intense satisfaction et que ça donnait des résultats absolument extraordinaires. Je crois même que Maricel a dû en... Je ne sais pas s'il en a repris. Hein. J'en ai retrouvé un ou deux. Et je me demande s'il n'en a pas repris. Enfin, ça n'a pas d'importance. Mais il y a quelque chose pour moi qui ne pouvait pas coller avec le surréalisme, mais je vais vous dire ce que c'est. C'est tout simple. J'étais vraiment embourbé, moi, dans la misère. Absolument embourbé dans la misère. Orphelin, et vraiment miséreux. Miséreux, mais vraiment, ce qui s'appelle miséreux, au point de ne pas savoir ce qu'on bouffe, si on va bouffer, on ne sait rien. Orphelin, bon, ensuite de guerre, ma mère est morte, à 15 ans, moi, j'ai gagné ma vie, quoi, il n'y avait pas de problème. Les études finies, on n'en parle plus. Moi, je suis un autodidacte, à peu de choses près. Hein. Et alors, le surréalisme, ben, ça ne pouvait pas coller avec ce bain de réalité absolue dans lequel je plongeais. Alors, tout en appréciant, si j'ose dire, que je grossis les termes, beaucoup, sur un plan esthétique, je sentais que ce n'était pas fait pour moi. La réalité me collait trop aux semelles, j'avais besoin d'exprimer. Alors, il y a eu, tout ça s'est étalé quand même sur un certain temps, on a été considéré, même à Rochefort, on en parlera demain si vous le voulez bien, il n'y a pas eu un reniement total du surréalisme, c'est absolument pas vrai. On était quand même pas assez idiots pour nier toute une dette, pour connaître que le surréalisme a complètement bouleversé les choses. Hein. Il n'était pas question de dire non. Mais il était question, peut-être, pour d'aucuns, dont j'étais d'ailleurs, d'en utiliser les conquêtes, d'en adopter certains postulats, mais peut-être pas les procédés. Il y a peut-être une différence de procédé. Et notre valse hésitation était d'autant plus excusable qu'elle était celle même des grands chefs. Car si l'on prend les poèmes d'Éluard, par exemple, Dans quelle mesure sont-ils du surréalisme pur? J'en doute fort. Il y en a guère. Dans Capitale de la douleur, déjà, il y en a bien qui ne sont pas tellement surréalistes. Enfin, quand on dit, je ne sais pas, la petite mère François Sagan lui a piqué d'ailleurs un fragment de phrase pour faire le titre d'un de ses livres. Mais, hein, attendez, je vais vous le dire, le poème d'ailleurs par cœur, parce que je sais. Inconnue, elle était ma forme préférée, celle qui m'enlevait le souci d'être un homme. Et je la vois, et je la perds, et je subis ma douleur comme un peu de soleil dans l'eau froide. Hein? Est-ce que c'est du surréalisme? Ça, j'en doute, c'est un très beau poème. Il est admirable. Dire qu'il est du surréalisme pur, je sais pas, je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Ça n'a plus grand-chose à voir avec la dictée surréaliste des débuts, cet éblouissement, les champs magnétiques, etc. C'est déjà très éloigné. C'est même déjà très éloigné de Poisson soluble. Enfin, le test qui accompagne le manifeste du surréalisme écrit par André Breton. André Breton était un homme hyper intelligent, hyper cultivé, très savant, mais finalement assez froid. Il n'avait peut-être pas cette flamme extraordinaire qui soulevait Éluard. Éluard était un très grand poète, c'est indiscutable. Mais en même temps, plein d'amour pour les hommes, plein d'amour pour la création, plein d'amour pour la femme, plein d'amour pour la beauté. Et chez lui, ça donnait donc une coloration assez différente de celle de Breton ou de celle d'Aragon. Quant à Aragon, Dieu sait, on sait de quoi il est capable, il fait tout avec génie, c'est absolument certain. Mais que de choses différentes, finalement. Donc, on les voyait bien, déjà eux-mêmes, ne pas être tellement d'accord sur la fin finale. Moi, ce qui m'a beaucoup plu chez André Breton, vers la fin de sa vie, enfin relativement, parce qu'il est mort finalement relativement, c'est pas si vieux que ça, c'était une orientation qui, moi, m'intéressait beaucoup. C'était une espèce d'orientation mystique du surréalisme, une orientation vers la tradition. Moi, je me souviens de la joie que j'ai eue le jour où je lui ai envoyé à André Breton, que je connaissais assez peu, j'étais allé voir une fois, qui n'était pas allé voir André Breton, Rue Fontaine. Mais enfin, assez peu, j'ai des lettres de lui, j'ai fait des trucs. Et un jour, j'ai lui envoyé un bouquin que j'avais fait sur Miloche. Et dans les deux ou trois jours qui ont suivi, j'ai reçu une lettre d'André Breton, sur papier, un papier très rare, d'ailleurs, c'était celui d'une revue qu'il avait créée qui s'appelait Medium, qui n'a pas eu de suite, d'ailleurs, je crois. Il y a peut-être eu un numéro, deux numéros, puis, enfin bref, comme beaucoup de revues qui claquent. Et il paraît que cette lettre a d'autant plus de valeur qu'elle a comme intitulé Medium. Moi, j'en sais rien. Enfin, c'est les bibliophiles qui me l'ont dit. Hein, j'en sais rien. Et cette lettre m'a absolument effaré parce que il me disait en substance, mais votre essai sur Miloche m'a révélé un Miloche que finalement j'avais méconnu. J'avais pas fait assez attention. Il en était resté au poème symboliste de Miloche. Tous les morts sont ivres, les morts de Lofoten, etc. Donc ce côté symboliste un peu pleurard, très beau d'ailleurs. Mais alors, comme j'avais beaucoup étudié Miloche, et puis je donnais des morceaux choisis, alors là, je parlais d'Ars Magna, je parlais des arcanes, je parlais des grandes idées sur le langage qu'avait Miloche, et je ne dis pas que ça ouvrait les horizons à Breton, qui est un homme extrêmement capable et cultivé, et tout ce qu'on peut imaginer, mais ce surréaliste, finalement, rejoignait étrangement sur le sens sacré des mots, sur des définitions, par exemple, du sang, de l'or, sur certains archétypes, si vous voulez, il rejoignait la pensée de cet homme qui, finalement, était sorti d'un certain catholicisme plus ou moins prophétique, etc. Et on sentait que c'était par là qu'il allait, Breton, chose qui est totalement étrangère à Éluard, par exemple. C'était pas du tout, comme on dit vulgairement, son job. C'était autre chose. Et c'était pas non plus celui d'Aragon, nous savons. Voilà. Alors nous, on est arrivés là-dedans, je dis nous, enfin les gens de mon âge, un certain nombre de gens, nous sommes arrivés, mais vraiment, avec une dette très très grande pour les surréalistes. Je pense même, je me trompe peut-être, après tout on se connaît mal, je crois que si mes images peuvent avoir une certaine vertu, c'est dans la mesure où elles m'échappent quelquefois, où je les cueille. Je ne les fabrique pas. Elles se différencient beaucoup de la métaphore, en ce sens que très souvent dans mes images, il y a une part d'irréalité, de surréalité qui intervient. C'est le reste d'une dette, en quelque sorte, qui est immense. Alors évidemment, le surréalisme après, aux mains des marchands, aux mains des... je dis marchands et trafiquants, enfin, si on veut, est devenue une chose commerciale, on en a fait n'importe quoi, même des vitrines de magasins, le côté facile des choses. Mais à l'origine, il y a tout de même eu une immense insurrection de l'esprit. Il y a des textes de base qu'il faut absolument lire. Ils sont d'ailleurs pas toujours signés le surréalisme rigoureux, le surréaliste absolument orthodoxe. Mais je pense qu'il y a un texte de Tristan Tzara qui avait paru dans, dans le surréalisme au service de la Révolution. C'est un très beau texte, un très long texte, où il fait la différence entre la poésie, activité de l'esprit, et la poésie, expression de l'esprit. Il était très évident que pour lui, le surréalisme était justement une projection de, de l'activité même de l'esprit. Cette chaîne qui en nous se dévite sans fin, et qui permet par exemple, pendant que je vous parle, je m'en excuse, ce que je vais dire va peut-être vous faire rire, mais de penser à autre chose. Et peut-être même à plusieurs choses, les unes derrière les autres. Nous avons une activité incessante. Nous avons une espèce de machine absolument incroyable qui est en nous, et qui procède aussi bien d'ailleurs par vision, par image, que peut-être même par manque de phrase, parce qu'il y a le vieil héritage sémantique, on l'a, enfin il n'y a pas moyen de faire autrement, il y a le petit Larousse, les années d'école, il y a tout ce qu'on veut, qui aussi fait cette tambouille en nous, n'est-ce pas? Alors, quand je dis tout à l'heure dans un poème, notre pensée a tout instant sauvé les eaux, mais c'est ça finalement. Nous sommes sauvés des eaux. Les eaux du dessus, les eaux du dessous, comme on lit au début de la Bible, enfin par assimilation, à chaque instant nous arrivons miraculeusement à nous sauver des eaux. Parce que où irions-nous si nous étions emportés par tous les bourbiers qui tournent en nous, par toutes les profondeurs et les arrière-profondeurs? Freud nous en a donné des explications, elles valent ce qu'elles valent, enfin bon, passons. Mais je crois que les surréalistes, après Rimbaud tout de même, parce que Rimbaud y avait pensé avant eux, il faut bien relire Rimbaud, et on s'aperçoit que dans les lettres, je ne sais plus si c'est à Demény ou à Isambard, je ne sais plus exactement, à un moment donné, Rimbaud dit, ça y est, je tiens le système. Il faut y penser à ça, je tiens le système. Alors moi je crois que le système de Rimbaud, eh bien, c'était pas autre chose que l'irruption de l'automatisme dans la pensée. Mais un automatisme au besoin provoqué, quitte à contrôler un peu après. Mais je crois, quand Rimbaud dit « je tiens le système », moi je suis absolument certain qu'il a inventé le surréalisme avant les surréalistes, et c'est leur gloire d'ailleurs d'avoir embrayé, d'avoir compris que Rimbaud était leur plus authentique précurseur avec Coxèvre. Voilà. En ce qui concerne le surréalisme, voilà, forte influence. Mais que voulez-vous, chacun avance, hein, et là il suffit de regarder ce petit livre, ça a été très bien raconté tout ça, dès 1930 d'ailleurs, le début c'est ça, le début de l'essai c'est en 1930 déjà, vous vous rendez compte, on prenait déjà des positions, bien avant Rochefort d'ailleurs, hein, c'était les positions prises dans la revue Jeunesse, où il y a des tas de textes, un texte de 32 notamment, il faisait allusion à ce moment-là à une publication, on avait un truc qui s'appelait Un cadavre, qui était dirigé par Breton, et vous pouvez connaître ça si vous êtes intéressé, et alors là, on reprend tous les tout ça, les cahiers libres, les vases communicants de Breton, Au Grand Jour, Arsenal, etc. Nous cherchions à définir nos positions, on voulait pas être les petits-enfants du surréalisme, on voulait bien en être les plus ou moins héritiers, les petits-cousins, mais pas les fils, voilà, tout simplement. Alors, on a eu tort ou on a eu raison. Moi, je crois que nous avons eu raison de chercher notre place. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, il y a aujourd'hui, d'ailleurs, je le comprends, il y a un retour en force du surréalisme. C'est certain. On en voit les preuves de tous les côtés. Et pourquoi pas? Il y a aucun mal. Et je me demande même, dans une certaine mesure, si des gens comme ceux qui se sont appelés, attendez, il y a eu la poésie froide, la poésie électrique, il y a eu Michel Bulteau et tout ce groupe-là, je me demande même s'ils n'ont pas apporté une variante du surréalisme, finalement, plus contrôlée. Et je ne sais pas s'ils en sont tellement rendus compte, parce que, notamment Michel Bulteau, qui est un garçon fort intéressant d'ailleurs, mais a des trous très curieux dans sa culture, c'est ainsi que l'autre jour, il rencontre un ami, il lui dit, mon Dieu, je me fais une découverte absolument extraordinaire, j'ai vu un type dont j'avais jamais entendu parler, c'est Paul Jean Toulet. Ben mon Dieu, je te jure que c'est pas mal. Hein. Alors le copain a rigolé, il dit, comment? Tu découvres? Ce n'est qu'une boutade de ma part. Mais encore une fois, je crois que ça se rattache très très étroitement au surréalisme, mais avec plus de contrôle. Ça n'est plus de l'écriture automatique, exactement. Hein. Il y a un deuxième degré, Disons que c'est un surréalisme peut-être plus culturel, plus apprêté, plus arrangé, mais l'influence reste, j'en suis absolument persuadé. Voilà, pour continuer, c'est-à-dire qu'on disait qu'il y avait une continuité quand même. Oh ben c'est sûr, mais c'est absolument certain. C'est certain. D'ailleurs, enfin, on ne va pas faire une conférence sur le surréalisme, il m'est arrivé d'en faire d'ailleurs, mais il suffit de relire les fatrasies du Moyen-Âge. Hein. Oui. On s'aperçoit que le surréalisme, il était déjà là. Sans doctrine. Il y avait simplement de braves gars qui échappaient au ronron habituel et qui avaient dit, les notables dont ils faisaient partie devaient les considérer comme des fous, ils devaient se taper sur la tête.
Vous n'y voyez pas plutôt cette fameuse phrase, une lutte presque mystique contre l'ordre établi, c'est-à-dire un retour au chaos.
Je ne sais pas s'ils allaient jusque-là, parce que moi j'y trouve une fantaisie.
Mais
je pense que les fatrasies de Philippe de Beaumanoir ou ces gens-là, il y a une fantaisie absolument incroyable. Quand il dit, un ours emplumé qui va, jusqu'à d'Ouessant à Douvres, c'est culotté. Enfin, mais je ne sais pas s'il y avait là-dessous une idée de revenir au cas originel. Enfin, j'en sais rien.
Il est inconscient. C'est un peu, vous voyez, les fameuses images d'Épinal où, dans une ferme, tout est renversé, où les animaux prennent la direction de la ferme et les,
ça peut être inconscient.
Et les fermiers, il y a tout un renversement de l'ordre établi.
Ça peut être inconscient, ça peut être. De toute façon, de la part de ces types-là, il y avait en tout cas certainement le désir d'échapper à l'ordre ambiant. Et même à la construction artistique ambiante, bien posée, raisonnable, c'est sûr, ils prenaient exactement le contre-pied. Hein. Et comme ils le font, c'est plus que de la fantaisie, c'est, à nos yeux même d'aujourd'hui, ça reste génial. C'est donc qu'en eux, ils avaient tout de même autre chose que du savoir-faire. Il y avait peut-être aussi une volonté. Écoutez, à ce moment-là, regardez Rabelais. Maintenant, Rabelais, alors là, on y trouve tout. Quoi. Enfin, ça, y a pas de doute. Enfin, on pourrait parler longuement du surréalisme et de tout ça, mais je vous remercie de la question parce que ça replace un petit peu dans l'histoire littéraire des choses qui ont besoin tout de même d'être connues et précisées. Moi, j'aurais pas pu passer à côté, enfin, je sais pas ce que je serais devenu, enfin, probablement pas grand-chose, mais ça a été extrêmement important. Mais encore une fois, tout ça reçu dans des conditions... on dira social, si vous voulez, oui, social, le mot est juste, qui n'étaient absolument pas celles d'un jeune homme de bonne famille, bien élevé, qui avait du temps de faire des études, etc. Hein, j'étais pris à la gorge par la réalité et par la nécessité. Alors, le surréalisme était, qu'on le veuille ou non, m'écarter de la réalité, c'était une sorte d'évasion et de fuite. Et ça, je ne pouvais pas. Je ne pouvais absolument pas. Voilà, c'est tout.
Thank you.
Ben, si vous voulez, je vous lis encore un ou deux textes, puis on s'arrêtera. Parce que les mystères d'Eleusis, ça trompe son monde. Hein. On n'apprend rien sur les mystères d'Eleusis, rassurez-vous. C'est plutôt la dérision. D'ailleurs, je vais vous lire le poème qui a donné son titre à ça. Je suis allé en Grèce, enfin, bien sûr, autrement j'aurais pas écrit ça. Ce n'est pas moi qui contredirais Pausanias, même si je me suis senti fier d'être gaulois en apprenant qu'on fabrique du savon à Eleusis. Oui, parce que c'est les Gaulois qui ont inventé le savon. Les mystères sont toujours là, faits de main d'homme. Ils ont seulement changé de chemise. À force de creuser la montagne en plein mi-temps, les mystes qui travaillent à la cimenterie en ont fait quelque chose qui ressemble fort au giron de Proserpine, autant dire à la dorme de leur grand-mère. La dorme, c'est le giron, c'est le tablier, c'est un vieux mot français, mais je ne suis pas obligé de le dire. Il est d'origine espagnole, d'ailleurs, c'est bien de Dornillo, qui est la pièce de bois dans laquelle on carène les bateaux. Il a fallu que j'aille à Moussia pour l'apprendre, vous savez pas. Alors, qui ressemble fort au giron de Proserpine, autant dire à la dorme de leur grand-mère, et le tablier bleu, c'est le golfe d'Égine. La voilà donc ressuscitée avec ses grosses mains veineuses qui caressaient si bien, qui carénaient à neuf le front et l'âme. Allons, Pluton s'est laissé convaincre. N'y furent pas pour rien, affaire d'homme, vous dis-je, les plaintes des hauts fourneaux plantées comme des trombones sur la voie sacrée. C'est à cela qu'ils pensent avec douceur, les mystes, en buvant du Coca-Cola sous la tôle rouillée du bar Déméter, à défaut de Kikeon que toute cette poussière de ciment rend inconsommable. Ils s'y sont rendus par paires, main dans la main, avec de grands rires, en sautant par-dessus les colonnes abattues dans la cante. Et soudain les voilà graves, à l'idée que de cette foutue grand-mère, s'ils la creusent encore un siècle ou deux, il ne restera que deux cornes, celle du Minotaure. Ils l'entendent déjà mugir, ce nuage de poudre, c'est son haleine. Ils essuient leurs doigts spatulés sur les vieux pneus qui leur servent de siège, vident leur verre cérémonieusement, se lèvent et reprennent à pas compter, sans maudire, le chemin de la carrière, à la fois écrasé et comblé. Alors ensuite, je suis allé à Hydra, enfin des choses comme ça. À Hydra, ça c'est presque un journal plutôt que des poèmes d'ailleurs, ça. À Hydra, je n'ai pas vu grand-chose, hormis au débarcadère le grouillement des chats qui savent exactement à quelle heure les cuistots du Dionysos se débarrassent de la tripaille et des coups de poulet. Sur le quai, un grand arroi de géricans et d'épiceries dont on bourrait le cacolet des âmes incrustés dans leurs plaies. Dans les ruelles à pipi, de vieilles femmes qui broutaient leurs bouches en faisant semblant de filer la laine. Derrière l'église, un cloître transformé en lit clos félinien, par des cloisons en bois, de citronniers, si je ne me trompe. Au café, près de la poste, deux ou trois très beaux pédérastes nordiques en guenilles somptueuses. Et dans une galerie obscure, une parabole hors de prix, les noces de Cana, je crois. Je n'avais Dieu, il est vrai, que pour l'idiot, secoué de tic, qui, sautant de rocher en rocher, ne cessait de retirer son fil de l'eau et de l'y rejeter sans vérifier l'amorce. Comme s'il tenait à mettre contre lui toutes les chances, et jusqu'à la charité, qui sait, de l'espèce qui nage. A-t-il enfin pu prendre et manger ce jour-là? Personne ne semblait le voir. Il faut dire qu'il n'existait guère, à peine plus que l'indispensable bleu dans la lessive, à peine autant que l'immortelle poésie dans le cœur des hommes. Voilà, ça c'est parti tout à fait de la réalité, hein, ça, il n'y a absolument aucun doute. Alors, voilà, dans le même ordre, il y a un poème sicilien. Hein. Aux dernières nouvelles, apprise à Palerme dans la piscine de l'hôtel, à deux pas de la mer, toute cette eau douce gaspillée, quand les brodeuses de Tiras gémissent autour des fontaines à sec. Aux dernières nouvelles, les fresques de Ravenne sont fausses. Allons, allons. Théodora n'en reste pas moins la plus belle des grandes putains sacrées qu'on peut ébioter à l'œil en attendant son tour à confesse ou chez le dentiste. Et puis on s'en fout de Ravenne, pas vrai. depuis qu'on a rencontré Dieu en personne et poussé avec lui le soleil d'Ibn Saphir, tel un cerceau d'argent recouvert d'émeraude. Mais il y aura toujours quelqu'un pour dire que le pantocrator louche, que ça ne vaut pas Lisieux. Quelqu'un pour s'étonner que l'on ne crie plus le sanglier dans la calza. Quelqu'un pour affirmer que le vendangeur avait eu l'idée derrière la tête quand il vous a donné une brassée de raisin pour vous remercier de lui avoir demandé le chemin de ses gestes. Quelqu'un pour emporter chez lui dans du papier journal les reliefs du destin. Bon, alors là, c'est un poème hollandais, Rotterdam. Rencontré par hasard, mais salué de bon cœur, Erasme. Coincé comme un gulden dans le distributeur de Schweppes, entre l'Aero Center et le cargo Babel. Vive la denrée, ma mère. Mais y a-t-il vraiment quelque chose? Des femmes en caoutchouc, du Deft made in Japan, des idées libérales à découper soi-même? Dans ces innombrables containers, certains sont des banques ou des églises, on dirait, si parfaitement empilés. On ne voit jamais personne y toucher. C'est peut-être la nuit qu'on les arrase avec le fil à couper le beurre. Il est vrai qu'on ne voit pas non plus le poison sur la crête des forces tumultueuses, fermez les guillemets, qui font danser macabre les trois derniers canards du port number one du monde. 600, 800 000 tonnes, et allez donc! Il n'en revient pas, l'Erasme, lui qui, trois mois durant, pour aller consulter un manuscrit à Padoue, pissait le sang sur sa mule écritoire. La voix rouillée par le conditionnel air obligatoire, et Holben n'est plus là pour lui remonter son col de fourrure, il dit « Si c'est ça l'Europe, vous pouvez vous la mettre au derche. À tout prendre, je préfère les poètes, qui nuit et jour, à la recherche du maître mot qui n'existe pas, touille le brouet de ceux qu'il sue, vomisse, éjacule ou défèque entre deux bouffées de raison, deux gorgées de mazou. » Voilà, ben ça c'était relativement récent. Hein? Tiens. Les mêmes deux. Ils sont très courts. Simple question de densité, pour ne pas couler, s'unir. Os et poumons, on a les rivets, les toupes. Et pour lampe, le cœur. Et pour soudure, les larmes, la salive. Le défaut de la cuirasse peut servir d'étau. Et tant pis, tant mieux si ça troue, ça brûle, si ça viole les petits secrets. Si ça mélange les Olympes, et tant pis, tant mieux, si l'ensemble se rouille et cabosse. Il tient, il flotte, il va, il est à toi avec la transparence. Et un petit dernier dans le même esprit. Il n'y avait plus rien à dire. Il y aura. Et pas seulement à dire, mais à faire ensemble, envers et contre la pesanteur, le droit des nefs, les mouches à viande, le profit. À faire quoi? Des lois qui seront des dons, des effets qui seront des causes communes de bonheur, pour tous, enfin, de l'être, avec une AE majuscule.
Die Frau,
Oui. Ainsi s'achève cet hommage à Jean Rousselot. Une fois n'est pas coutume, nous avons laissé beaucoup de musique, puisque c'était aussi la volonté de Jean Rousselot de faire écouter de la musique. Il y a deux poètes pour lesquels vraiment la musique a beaucoup compté dans leur vie et même sauvé leur vie. Je pense à Claude Vigée et également donc à Jean Rousselot. Jean Rousselot, je vous invite donc à vous procurer ses livres ou lire dans les anthologies, en particulier l'anthologie sur l'école de Rochefort, la poésie de l'école de Rochefort. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.